billets d'Europe, la chronique européenne animée par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Nous reprenons les chroniques Europe après 2 mois d'interruption. Le printemps a été marqué par beaucoup d'incertitudes, voire d'inquiétudes pour la cohésion de l'Union. 2 mois d'été plus tard, que peut-on dire de la situation institutionnelle et politique de l'Union, Daniel ?
Alors, la situation institutionnelle de l'Union correspond à la préparation d'un passage de relais. Au Parlement, les électeurs européens en mai et les eurodéputés en juillet ont écarté la menace de blocage promis pendant toute la campagne par les forces europhobes. Les élus de ces forces constituent certes une minorité importante, mais une minorité privée de tout poste de responsabilité. Appartenant principalement au groupe ID, Identité et Démocratie, ces députés en seront réduits à faire de l'obstruction bruyante mais inefficace. Après 2 sessions en juillet consacrées à la désignation de responsables, les travaux parlementaires reprendront le 16 septembre avec au programme des dossiers lourds, questions budgétaires, affaires étrangères et droits de l'homme. À la tête des institutions de l'Union, la nomination des présidences du Parlement européen, du Conseil européen, de la Commission européenne et de la Banque centrale, ainsi que du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, s'annonçait délicate en raison du bras de fer entre les députés désireux de voir appliquer pour la présidence de la Commission le principe du Spitzenkandidat, hein, la tête de liste ou chef de file, et le Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement, bien décidés, lui, à conserver la maîtrise de cette nomination. Par ailleurs, défense des intérêts nationaux oblige, les tractations au sein du Conseil s'annonçaient longues et difficiles. En juin, suspense il y a eu, relaté avec gourmandise par la presse accréditée. Je lis Le Monde, 29 mai, combat de chef à la tête de l'Union européenne. L'Opinion, le 16 juin, le mercato de Bruxelles plus imprévisible que jamais. Le Parisien, 1er juillet, l'Europe patauge dans le grand mercato. Tout ça, c'était du pain béni pour les détracteurs de l'UE, mais finalement, le 3 juillet, République des Pyrénées, Union européenne, un mercato laborieux mais réussi. En effet, après quelques jours de blocage, le 30 juin, les 28 sont tombés d'accord sur une proposition franco-allemande appuyée notamment par l'Espagne. Pour le Parlement, il y aura un social-démocrate à élire. Pour le Conseil européen, on choisit le Belge Charles Michel. Pour la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, avec, pour le poste de haut représentant, l'Espagnol Josep Borrell. Enfin, Christine Lagarde pour la Banque centrale européenne. L'image d'une Europe divisée n'aura donc pas passé l'été, au prix, il est vrai, d'un affaiblissement du rôle du Parlement.
Alors le casting des top jobs est arrêté, mais on ne connaît pas encore la composition de la commission.
Vous avez raison Yann, mais la nouvelle commission n'entrera en fonction que le 1er novembre, et d'ici là, le processus de formation de cette commission se sera déroulé, à savoir, après la désignation d'un candidat au poste de commissaire par pays, la distribution des missions par Mme von der Leyen, le grand oral de chaque MP30 devant le Parlement début octobre, enfin l'investiture globale de la nouvelle commission par le Parlement dans la 3e semaine d'octobre. Alors à ce jour, nous connaissons les candidats proposés par la quasi-totalité des pays. 8 d'entre eux sont sortants, le néerlandais Timmermans, premier vice-président de la commission Juncker, le letton Dombrovskis, la danoise Vestager, l'autrichien Hahn, la bulgare Gabriel, la tchèque Jourova, l'irlandais Hogan, le slovaque Fetkovic, auquel s'ajoute le grec Chinas, qui n'était pas commissaire mais porte-parole en chef de la commission européenne. Les nouveaux sont tous eurocompatibles, même le candidat hongrois, et parfois ont une longue familiarité avec la chose européenne, comme la candidate française Sylvie Goulard ou le belge Didier Reinders. Pour d'autres, moins capés, l'oral de près de 3 heures qui s'annonce devant les parlementaires en comité, certains de ces derniers très remontés par la mise à l'écart donc des Spitzenkandidaten, ne sera pas une partie de plaisir.
La législature qui s'est ouverte s'inscrit-elle dans un contexte plus favorable pour la cohésion de l'Union que celui du début de l'année 2019 ?
Alors les dossiers épineux d'avant l'été sont toujours là. Certains extérieurs à l'Union n'ont pas connu d'évolution significative, comme le conflit commercial avec les États-Unis ou le dossier iranien, et la position des États membres est restée commune. En revanche, en cette fin d'été, la relation de 2 États membres avec Bruxelles tend à se clarifier. Au Royaume-Uni, le dossier du Brexit a été relancé par la démission début juillet de Theresa May et l'arrivée, le 23, au 10 Downing Street, de Boris Johnson. en proclamant que la sortie du Royaume-Uni aura lieu le 31 octobre avec ou sans accord, Johnson vise à enfoncer un coin entre les dirigeants européens et à rejeter la responsabilité d'un éventuel Brexit dur sur l'Union. Si la tournée des capitales européennes effectuée au lendemain de son installation n'a pas produit le résultat espéré, la poursuite de la négociation avec Bruxelles sans nouvelles propositions britanniques, comme la suspension longue des députés de Westminster, montre que le Premier ministre est décidé à jouer la stratégie de la tension maximale. À ce jour, la cohésion européenne tient, mais la messe n'est pas dite, si l'on en juge par certains propos plutôt conciliants tenus outre-Rhin. En Italie, les relations du gouvernement Conte avec Bruxelles s'étaient beaucoup dégradées, notamment à propos du budget italien, sur fond de déclarations incendiaires du vice-président Salvini. En provoquant à la mi-juillet l'explosion de la coalition au pouvoir, Salvini a non seulement échoué dans sa stratégie de conquête électorale du pouvoir, mais a poussé à la constitution d'une nouvelle coalition, dont la loyauté à l'Union est l'un des engagements. Alors certes, Salvini n'est pas sorti du jeu politique italien, mais son éviction du gouvernement redonne à l'Italie, pays fondateur, ne l'oublions pas, une crédibilité en Europe qu'elle avait largement perdue.